Tout le monde connaît ASICS, mais saviez-vous que son nom est l'acronyme d'une célèbre expression latine, Amina Sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. ASICS, c'est la marque numéro 1 du running en France, et elle est fière non seulement d'être le partenaire officiel de tous les coureurs du Schneider Electric Marathon de Paris, mais aussi d'accompagner chaque jour des millions de runners dans la pratique de leur passion qui les aide à faire du bien à leur corps et à leur esprit. Bonne écoute.
Bienvenue sur le podcast officiel du Schneider Electric Marathon de Paris. Cette émission va vous inspirer, vous motiver et vous aider dans la préparation de votre prochain défi sportif. Bonne écoute.
Dimanche 17 octobre dernier a eu lieu le Schneider Electric Marathon de Paris et nous tenons une nouvelle fois à féliciter toutes celles et ceux qui ont défié le bitume parisien et qui sont venus à bout de cette distance mythique. À cette occasion, le podcast Dans la tête d'un coureur a enregistré une émission sur la finish line du marathon en plein cœur de l'avenue Foch. Et nous vous proposons aujourd'hui d'écouter les meilleurs moments de ce programme, histoire de vous replonger dans l'ambiance du marathon et pourquoi pas vous motiver à préparer le prochain. C'est parti. Fred, je te propose qu'on s'intéresse à cette édition 2021, le grand retour du marathon de Paris. On a eu le droit à une avalanche de records. Il faut dire que les conditions étaient vraiment parfaites, étaient toutes réunies pour la performance et le plaisir. Est-ce qu'on peut dire que cette édition restera dans les annales du marathon ?
Alors, je pense que déjà cette édition restera dans les annales du marathon et du marathon français, du fait que c'est le premier marathon qu'on a depuis 2019 suite à la crise sanitaire qu'on a connue. Donc c'est vraiment une étape très importante qui dans un sens marque un certain retour à une vie qui n'est pas totalement normale effectivement, mais peut-être une vie qu'on n'aurait pas imaginée il y a forcément encore quelques mois. Donc déjà elle restera dans les annales pour ce côté très symbolique d'un retour à une pratique de course collective et heureuse qu'on attendait tous depuis des mois et des mois. Je vais parler en années presque, parce que moi ça me paraît tellement loin que j'ai l'impression qu'on a été sevré et privé pendant très longtemps. Donc voilà, c'est déjà ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a eu des conditions de course que je qualifierais d'exceptionnelles aujourd'hui. Alors, la petite nouveauté cette année, c'était que le marathon de Paris se courait en octobre et non pas au mois d'avril comme à l'accoutumée. Mais malgré ça, on a eu de très bonnes conditions. À 10h, il faisait 9 degrés, 4 km/h de vent, donc autant dire que dalle, hein, excusez-moi de le dire comme ça, mais je vais vraiment parler en tant qu'entraîneur, rien du tout, juste une petite brise qui vous rafraîchit quand vous en avez besoin. Donc vraiment de super conditions. Et en plus, j'y faisais référence en début de réponse, du fait qu'on a attendu quasiment 2 ans et demi pour avoir ce marathon, et bien un engouement, une excitation sur la ligne de départ qui, à mon avis, ont transcendé les jambes, ont transcendé les têtes et ont donné des ailes aux jambes, si je peux dire. Et c'est vrai qu'on voit un certain nombre de coureurs et de coureuses qui améliorent leur meilleur temps, leur personal best ou record personnel, si on veut le dire en français. Et ce qui est quelque peu surprenant, parce que voilà, c'est un retour à la compétition, mais c'est un retour à la compétition réussi.
Justement, en parlant de chrono, ça a donné quoi ? Je crois qu'il y a eu quand même quelques records personnels qui sont tombés là aujourd'hui.
Alors, il y a eu des records personnels et puis il y a eu un record de l'épreuve, comme quoi les conditions ont largement contribué, puisque chez les hommes, la victoire revient au Kenyan Elisha Rotich en 2h04 minutes et 18 secondes, et il bat le record d'un certain Kenenisa Bekele, que tout le monde connaît évidemment, qui avait établi la meilleure marque sur le parcours parisien en 2h05 minutes et 4 secondes, donc presque une minute de mieux que Bekele, ce qui n'est pas rien quand même quand on connaît la qualité et le pédigré du client. Donc voilà, une très grosse perf. Et chez les femmes, alors on n'a pas battu le record de l'épreuve, puisque l'Éthiopienne Tigist Memouye gagne en 2h26 et 12 secondes, mais un peu moins de 3 secondes. Alors, je vais dire 3 secondes pour arrondir, hein, mais c'est 2 secondes et 8 centièmes, si je dis pas de bêtises, devant sa compatriote Dinkeza. Et on n'a pas eu souvent des arrivées au coude à coude comme ça chez les élites, et encore moins chez les élites féminines. Donc, une course très serrée, sachant que la troisième n'était pas très loin non plus derrière.
Écoute Fred, je te propose maintenant qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à nos deux premiers athlètes qu'on va recevoir sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Maïva Danois, athlète de l'équipe de France, et Johan Durand. Je pense qu'on peut les applaudir sur le plateau, bravo, parce que là ils ont réussi tous les deux quelque chose d'incroyable. Maïva, toi tu viens tout juste de boucler ton premier marathon, comment ça va? Est-ce que t'as pas trop mal aux pattes actuellement?
J'avais pas mal aux pattes pendant le marathon, mais c'est très difficile de marcher une fois la ligne d'arrivée franchie. J'espère pouvoir descendre les marches juste après, mais tout va bien.
Bon, t'inquiète pas, Johan va t'aider. Hein.
Oui.
Alors justement, Maëva t'en parle, et moi c'est souvent un conseil que je donne, et peut-être que Johan l'a déjà employé cette technique-là, quand tu as des marches à descendre, et notamment je pense peut-être à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, qui ont fini le marathon, bah, vous les descendez en marche arrière. Alors, vous n'avez pas forcément l'air très intelligent quand vous faites ça dans un lieu public, mais vous en fichez, vous le faites. Moi, je l'ai déjà fait à l'issue d'un marathon. On me regardait un peu bizarre, mais au moins, j'avais beaucoup moins mal aux jambes et c'est très efficace.
Bah, écoute, je vais appliquer ton conseil de suite. Il n'y a pas de souci.
Attention à ne pas tomber, hein, ce serait dommage de se blesser quand même. Hein. Demande l'aide de Johan. Et justement, nous sommes en compagnie également de Johan Durand. Je pense qu'il est encore sur son petit nuage, Johan, parce que non seulement il vient de battre son record, mais il vient aussi de descendre sous la barre symbolique des 2h10. Johan, bravo. Comment ça va? Est-ce que t'es encore sous l'effet des endorphines, toi?
Ouais, bah très content. Ouais, excité par le chrono, excité par la matinée qu'on vient de vivre. Hein. C'était la folie et ça l'est encore. Ça fait plaisir. Hein. Ça fait 2 ans qu'on attend tout ça et ouais, ça y est. Hein. Revoir ce flot de coureurs arriver, tout ce stress, cette adrénaline qu'on a tous eu pendant les derniers jours, mais surtout ce manque pendant 2 ans. Donc voilà, moi je suis content du chrono et voilà, Paris me réussit, c'est pour ça que je suis venu. Et je suis vraiment content de mon chrono et ouais, vraiment satisfait. Mais pareil, comme Maëva, mal aux jambes quand même.
On va débriefer un peu de ta course, de tout ce qui s'est passé. Tu vas tout nous raconter. Maëva, je le disais en introduction, c'est ton tout premier marathon. Alors, comment est-ce que tu as vécu cette expérience? Et puis surtout, comment est-ce que tu as trouvé ce parcours parisien?
Alors, j'ai vraiment vécu une superbe expérience. Je ne m'attendais vraiment pas à courir en 2h45 aujourd'hui. J'ai eu une prépa difficile. Après, la prépa parfaite n'existe pas. Hein. Quand on échange avec les coureurs, il y a toujours eu des petits pépins physiques, des petits pépins dans le milieu professionnel. Donc, moi, j'ai pris ça vraiment comme une première expérience. J'y suis allée à l'insouciance. Mais quel bonheur. Au 35e kilomètre, je me disais, bon, mais c'est là peut-être qu'il y a le mur. Au 36e, il n'était pas là. Au 37e non plus. Au 38e, bon, il n'est toujours pas là. Il est peut-être derrière, donc il faut continuer. Et ça a été vraiment incroyable. Et c'est beaucoup d'émotions, c'est un truc de dingue.
Alors ça me fait plaisir ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on fait toujours tout un tas sur le mur. Et d'ailleurs toi-même tu nous l'as dit, tu t'es posé la question presque continuellement sur le mur. Et finalement tu l'as pas eu, parce que Fred, le mur c'est pas quelque chose d'obligatoire.
Moi je pense que même il doit globalement pas arriver le mur, enfin on le dit souvent, hein, je le répète tout le temps. Alors c'est une phrase d'entraîneur, hein, c'est que en tout cas les entraîneurs de marathoniens le disent tout le temps. La bonne prépa c'est celle qui fait en sorte que le mur arrive après la ligne d'arrivée, tout simplement. Donc on en fait, et moi ça m'agace un peu, mais c'est peut-être pour rendre le marathon encore plus mythique, on en fait toujours toute une tartine, si vous me permettez l'expression. Mais globalement, voilà, je pense que plus de 90% des coureurs aujourd'hui n'auront pas vu l'ombre d'un mur, alors que peut-être ils en ont nourri de l'angoisse. Donc maintenant, Maëva le sait, ceux qui ne l'ont pas rencontré aujourd'hui le savent, ce n'est pas inévitable, et globalement, on passe plus de marathons sans jamais le voir qu'en le voyant réellement.
Maëva, pendant ta préparation, tu as été assez discrète. Moi, je te suis sur les réseaux sociaux et c'est vrai qu'on t'a pas vu communiquer, partager. Moi-même, je savais pas si tu allais courir le marathon et je t'ai envoyé un petit message quelques jours avant parce que voilà, tu m'as dit que tu le faisais, mais j'avais des inquiétudes. C'était une volonté de ta part de pas trop communiquer, de pas te mettre une pression et de vivre un peu ton expérience à toi et rien qu'à toi?
Non, pas forcément. Donc là, je rentre dans le milieu professionnel depuis peu. Donc, j'ouvre mon cabinet en tant que podologue. Donc, ça a été des mois très difficiles où il a fallu concilier milieu pro et milieu sportif et vie perso également, parce que j'ai quitté l'INSEP. Donc très discrète parce que tout simplement pas le temps. Et quand on court, j'ai voulu vraiment vivre cette prépa à fond et de pas tout le temps être avec mon téléphone. Voilà, j'ai fait beaucoup de vélo aussi et ça c'est un point auquel j'aurais vraiment voulu aujourd'hui apporter aux gens, c'est que le vélo, ça aide énormément dans une prépa quand on fait du long. Moi, j'en ai vécu l'expérience. 42 km aujourd'hui, c'était royal, quoi. Et je pense que cette prépa vélo m'a vraiment aidée.
C'est vrai que tu as beaucoup, beaucoup fait de vélo. Tu l'as vraiment intégré dans ton plan d'entraînement
Complètement. Mais après, j'ai préparé le duathlon aussi. Donc, c'était une préparation à la fois pour le duathlon, à la fois pour le marathon. Le vélo m'a énormément apporté.
Mais moi, comme Guillaume, je te suis sur les réseaux. Et du coup, je me disais, mais est-ce qu'elle a compris que le marathon de Paris, c'est en courant et c'est pas en vélo, ouais, en fait. J'avais l'impression que tu faisais que du vélo.
Ouais, mais ça enlevait pas mal toute la partie traumatisante qu'on peut avoir sur la route. Bon, après, voilà, je cours depuis toute petite, donc je sais courir, je suis habituée à courir. J'ai quand même fait des sorties longues. Bon, ma plus longue était de 27 km, c'est pas énorme, mais voilà, j'y suis allée au plaisir, à l'insouciance, et je pense que c'est l'essence même pour prendre départ à une telle distance, c'est d'avoir envie et le plaisir de le faire.
Alors, Johan, on va pas te laisser de côté non plus, quand même. On va parler de ce que tu as fait. D'ailleurs, moi, j'ai vu Johan vers le 32 km, je lui ai crié dessus, mais il avait l'air tellement surpris, il était tellement à sa course, il a regardé un peu, mais qui c'est qui fait ce boucan-là, parce qu'il n'y avait pas encore trop de monde.
Mais... Ouais, non, mais je t'ai bien vu. Ça fait plaisir, voilà. Parce que c'est le moment où le 32, on commence à être un petit peu dans le dur, on est dans le money time, hein. c'est la fin de course. Et non, ça fait plaisir de d'être supporté. C'est pour ça que j'ai fait Paris, hein. C'est pour avoir beaucoup d'encouragement. Et c'est vrai que c'était un petit plus, hein.
Merci. Et alors, non, je t'en prie. Et du coup, alors, Johan, ton année de 2021, on peut dire qu'elle a été plutôt réussie, hein. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce que tu as fait, mais on va quand même parler de ton titre de champion de France de semi-marathon, quand même, parce que c'est un titre de champion, ouais, de France. Un très beau titre. Et on pouvait penser, les observateurs extérieurs auraient pu penser que tes grandes heures, tes belles heures dans l'athlétisme étaient un peu derrière, parce que tu t'étais gravement blessé, tu revenais juste au moment où il y a eu la pandémie, donc pouf, pile au mauvais moment, c'est-à-dire après pendant un an et demi plus de courses. Est-ce que tu as toujours cru, et surtout aujourd'hui là, vous êtes quand même parti sur des allures un peu folles, ouais, parce que on regardait les allures de départ, le chrono, on était plus sur les 2h07, 2h08, vraiment tu as toujours cru, tu te sentais tellement en confiance que ça, que tu te disais aujourd'hui c'est ma journée et je peux tout accomplir.
On est parti un peu vite parce que la préparation s'est bien passée, hein. C'est voilà, comme on le disait, le marathon c'est essentiellement la préparation qui est difficile, et de mon côté elle s'était très bien passée. J'ai battu mes records au 10 km, au semi, j'ai gagné les championnats de France de semi, donc je savais que j'arrivais un petit peu avec des certitudes, quoi. Je savais que j'en étais capable. Après, voilà, il faut le faire le jour J. Mais après, c'est plus Flo Carvalho qui m'a poussé à descendre un petit peu, à passer relativement vite. Moi, j'étais plus pour qu'on parte sur les bases de 2h10. Lui, il était chaud pour 2h08-30, 2h09. Parce qu'après, on sait que la partie la plus roulante, c'est les premiers kilos. Paris, la difficulté, c'est le deuxième semi. Donc, l'idée, c'était quand même de prendre un petit peu d'avance sur le premier semi. Donc, on est parti sur les bases qu'on s'était donné. On passe une 4-20 au semi, c'était ce qu'on avait demandé au Lièvre. Mais oui, j'ai pris des risques parce que voilà, j'ai fait Milan, j'ai pas pris de risques, j'ai couru, j'ai fait 2h12-27, j'avais terminé le marathon même pas fatigué, à peine de courbatures et tout. Là, je sais que j'ai des courbatures, là je sais que j'ai fait le chrono que mon corps peut faire, parce que là je pense pas aller beaucoup plus vite.
Mais, ouais, mais alors attention,
tu vas descendre les marches en arrière, toi, ouais, aussi.
Voilà, ouais, lui aussi il va descendre les marches en arrière. On vous enverra quelques petites vidéos, hein. On va essayer de capturer ça. Mais attention, tu vas pas te faire que des amis en disant j'ai couru en 2h12, j'étais à peine fatigué. Hein. Et, plus sérieusement, Johan, tu t'attendais à un retour aussi fracassant cette année-là, ou vraiment tu du fait de l'absence de compétition et de la blessure, tu nourrissais quelques doutes?
Après, je nourrissais toujours des doutes parce que voilà, ça reste un marathon. Ça reste une aventure, et je me demandais même si j'étais fait pour cette distance, hein, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit que j'avais un gros potentiel sur 5000 et que je l'ai peut-être gâché en montant sur marathon, que bah, les blessures m'ont fait perdre pas mal d'années. Mais après, on m'a dit aussi que voilà, j'étais doué, que j'avais les qualités et tout, et du coup, ça m'a vraiment, le discours positif, la positive attitude, ça m'a vraiment reboosté dans les moments délicats. Pendant ces 2 ans de galère, j'ai cru en moi, il y a des gens qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance, et du coup, ouais, revenir au premier plan, c'est compliqué, mais quand on a les qualités et qu'on veut, enfin, quand on y croit surtout, plutôt, y a pas de raison que ça arrive pas. Je me suis entraîné dur, et surtout aujourd'hui j'ai plus de pépins physiques. Ça fait un an et demi que je m'entraîne et que je loupe pas une séance parce que je suis plus du tout blessé. Et à partir de là, ça change un coureur, hein. Quand il y a plus des petits grippes dans le rouage, ça roule tout seul. Et après, je me retrouve à refaire des perfs de mon niveau d'avant. Et
Moi, je suis assez surpris parce qu'on a discuté un peu de tes performances. Tu m'avais dit, voilà, moi, j'aimerais bien faire 2h11. Et puis finalement, voilà, 2h09. Est-ce que c'est l'adversité, vraiment, à quelques heures presque du départ qui t'a donné envie d'aller te challenger? Ou c'était peut-être un petit coup de bluff aussi et non, tu savais que t'en avais derrière la pédale?
C'était un discours à la Giroud, je vise le maintien. tu vois, c'était le discours.
Finir.
Ouais, voilà. C'était presque ça. C'était quelque part me rassurer. Tu vois, voilà, 2h11, j'aurais été content. Moins de 2h11, j'aurais vraiment été content. Mais au fond de moi, bah, je savais que j'avais les capacités pour courir moins de 2h10. Et avec mon coach, on le savait. Enfin, voilà, si j'ai suivi les lièvres et si j'ai demandé à partir vite, c'est parce qu'au fond de moi, je me suis dit, ouais, il y a les conditions, on a deux lièvres, les conditions météo, elles sont top. J'ai jamais été aussi en forme. C'est aujourd'hui qu'il faut mettre le coup de poker et il faut y aller, tu vois. Et alors que voilà, il y avait un deuxième groupe de Français derrière qui partait sur une 5.30, donc sur 2.11. J'aurais peut-être pu partir avec eux, mais non, j'ai dit je pars dans le premier groupe et c'est aujourd'hui je me sens bien, j'y vais. Et voilà, et après c'était peut-être il y a quelques jours, c'était un discours de façade quand on veut pas se mettre une pression supplémentaire, tu vois, c'est ça, on revient sur l'épisode du mental dans les podcasts de la tête d'un coureur sur le mental et sur la façon d'aborder les compétitions. Ouais.
Ah, c'est vrai qu'il faut des fois il faut savoir prendre des risques, mais c'est toujours un peu parce qu'on a toujours peur de se griller, Fred. Alors comment on fait pour arbitrer aussi entre il y a des super conditions, la prépa s'est très bien passée, la densité est là, est-ce que je peux prendre des risques? Comment on fait pour arbitrer et répondre à cette question, Fred?
Alors l'arbitrage finalement, j'allais dire, c'est presque toujours un coup de poker, mais pour moi, et notamment là, c'est le cas de Johan, je pense, il doit reposer sur l'expérience. Johan, il sait ce qu'il a fait en termes de prépa, il sait les compétitions et comment il les a vécues et comment il les a encaissées. Donc, il savait au fond de lui-même et ses jambes savaient et ses jambes lui ont dit qu'il pouvait le faire. Donc, c'est là que l'arbitrage, il s'est fait. C'est dans la détermination de départ, de se dire bon, maintenant, voilà, c'est aujourd'hui ou jamais, et qui a été très certainement confirmé dans les premiers kilomètres de course, qui nous dit, bah, effectivement, oui, je suis bien. Parce que s'il avait fait cet arbitrage de partir sur cette allure-là, mais que sur les 5 premiers kilos, il avait senti bah, que finalement, les jambes ne répondaient pas comme il souhaitait pour cet objectif-là, il aurait intelligemment décroché pour rester dans le groupe sur l'allure suivante. Donc voilà, c'est un arbitrage qui se fait en fonction aussi de séances test, et je pense qu'il en a eu quelques-unes, et les compétitions sont les meilleures séances test. Donc notamment, je pense que Johan s'est appuyé sur ses dernières courses, que ce soit les France de 10, les France de semi, et il savait où il pouvait et où il devait aller aujourd'hui.
Comment ça se passe un peu avec les différents partenaires, adversaires français? Alors moi, je t'ai vu t'entraîner, t'échauffer avec Florian Carvalho. Vous courez aussi beaucoup ensemble. Vous n'avez pas aussi ce risque-là voilà, des fois, il y a un peu les égos, il y a aussi l'envie d'aller chercher le premier titre de français. C'est un peu explosif aussi tout ça. Comment est-ce que vous arbitrez un peu les décisions? Parce que bah voilà, on reste des coureurs et puis l'adversité, c'est aussi ça qu'on aime dans la course à pied. Même si on est copains dans la vie, bah, l'adversité, on aime ça aussi, quoi.
Ouais, après, avec Flo et même avec Zach Wassan, on est quand même assez proches et assez amis. Donc, moi, ça m'a vraiment embêté quand je me suis retourné au 32e et que j'ai vu que Flo était plus là. Et ça m'a même un peu perturbé parce que je me voyais déjà nous tirer la bourre, tu vois, pour faire premier français. On se serait pas fait de cadeau sur la ligne verte là, hein. Mais l'accompagner et qu'on se pousse tous les deux mutuellement, c'était vraiment l'objectif. Et je t'avoue que quand je l'ai vu malheureusement abandonner suite à des crampes à l'ischio, ça m'a un peu perturbé. Mais non, on s'entend bien, tu vois. Flo voulait partir vite, moi j'étais un peu plus en retrait, donc on a essayé de trouver un compromis pour que les lièvres nous amènent tous les deux sur un temps de passage un petit peu intermédiaire. Voilà, c'est de l'entente cordiale, hein. Alors oui, c'est sûr que sur la course on est adversaire, mais on reste amis dans la vie, on s'est échauffé ensemble, on a rigolé ensemble et on s'est vu à l'arrivée ensemble, mais on se serait battu, on se serait tout donné pour faire premier français, ça c'est certain, j'aurais pas laissé ma place, hein.
Maïva, toi tu viens du 3000 mètres steeple, donc une distance sur piste. Alors là clairement, hein, on est un peu aux antipodes du marathon. Je crois même, on a vu des athlètes de 1500 mètres, 5000 mètres comme Johan venir sur marathon, mais 3000 mètres steeple, c'est quand même assez rare. Pourquoi t'as eu envie de faire cette transition vers le marathon?
Parce que j'en ai marre de tourner en rond autour de la piste et que j'ai besoin de me challenger sur des distances comme le marathon. Voilà, moi j'ai le souvenir d'avoir vu mon père justement avec tellement de difficultés descendre les marches quand il a fait le marathon en 2003 que j'avais vraiment envie de ressentir en fait ce que c'est que de courir un marathon. Et j'ai vraiment adoré cette première expérience qui ne sera pas la dernière. J'ai vraiment envie de descendre ce chrono maintenant qu'il y a une référence sur le marathon. mais c'est vrai que 3000 mètres ce type, c'est, je me vois plus franchir des obstacles. Aujourd'hui, ça sera le marathon, ouais.
En tout cas, sur Twitch, on a énormément de gens qui vous félicitent. Il y a Magic Sainté, il y a Emmanuel Fèvre, il y a aussi Sally Framberry qui vous encourage. Et bah, c'est une bonne transition pour jouer à notre prochain concours. On vous fait gagner cette fois-ci un plan d'entraînement des LTDC Training pour préparer un marathon, un semi-marathon, pourquoi pas, en répondant à cette question. Quel est le temps réalisé par Johan et Maïva aujourd'hui sur marathon ? Fred, je crois que tu avais une autre question à poser à Maïva, il me semble.
Alors Maïva, oui, on fait souvent ce constat, on l'a encore fait avec Thomas juste avant. Le marathon français homme connaît une vraie renaissance, il y a vraiment une densité assez incroyable. Il n'y a pas si longtemps, en moins de 2h10, Johan aurait été le premier français. Là, ils sont dans un mouchoir de poche, ils sont 4 sous les 2h10, si je ne dis pas de bêtises, voire 5 il me semble.
Ouais, possible.
Et par contre, chez les femmes, excuse-moi, je vais le dire de manière un peu abrupte, c'est un peu le désert depuis le retrait de Christelle Donnet. Comment toi tu expliques le fait que les femmes en tout cas les athlètes féminines françaises montent moins si facilement sur le marathon?
Peut-être parce que c'est une distance qui peut effrayer. Voilà, on voit beaucoup d'hommes, il y a tellement de reportages sur les hommes, mais très peu sur les marathoniennes. Et voilà, moi j'avais vraiment envie de commencer. J'ai 28 ans, ça reste assez jeune encore, j'estime. mais voilà, commencer tôt le marathon pour pouvoir monter petit à petit et aussi inspirer d'autres femmes, j'espère, à pouvoir courir cette discipline qui est incroyable. Et voilà, non, j'espère qu'il y aura une effervescence incessamment sous peu sur marathon pour les femmes. En tout cas, j'y crois parce qu'il y a une jeunesse qui arrive au sein du demi-fond français. Voilà, faut pas hésiter à les faire basculer dans le fond maintenant. Donc j'espère qu'à l'avenir, il y aura plus de femmes, oui.
Bah, on espère que nous, pareil, hein, que ça va venir. On sait que Mélodie Julien est à Amsterdam aujourd'hui pour son premier marathon également. J'ai pas encore le...
Il me semble qu'elle a fait 2h40, j'ai croisé René Auguin tout à l'heure, donc une très belle performance. Pareil, elle est jeune, donc ça va inspirer d'autres nanas à monter sur la discipline, donc on croise les doigts.
Bah, je pense que ça, en tout cas vos exemples, à Mélodie et le tien, je pense vont désinhiber, parce que c'est ça souvent la question. On a vu que sur marathon ça a eu un peu un effet domino, hein. Il y en avait, c'était un peu toujours les mêmes qu'on voyait. On avait un peu les anciens, excuse-moi Johan, mais tu en faisais partie, qui était là, qui était un peu précurseur. Il y a Hassan qui est venu, puis après bon, il y a Florent Carvalho qui a quitté le 1500 mètres pour 6 mètres direct, qui a été aussi un déclencheur, moi j'estime à son niveau, puisque derrière ça a enchaîné. On a eu Mehdi Frère qui est arrivé, Nicolas Navarro qui est arrivé, Charik Abderrazak qui était là aujourd'hui pour son premier marathon. Donc on a énormément de marathoniens, et j'espère que bientôt on aura énormément de marathoniennes françaises. Et on pourra dire que tu as fait partie de l'élément déclencheur, je pense, parce que
moi, voilà, celle qui nous inspire, c'est Christelle Donnet, hein. Moi, pour moi, c'est le modèle de référence sur marathon. Et faut pas se poser de limites, hein. Maintenant, j'espère en inspirer d'autres, en effet.
Faut pas se poser de limites. Puis 28 ans, t'as raison, c'est très jeune. C'est même pas un cinquième de l'âge de Fred. Alors vraiment. Justement, c'est quoi vos plans pour la suite?
Bah, on en discutait tout à l'heure, justement. On s'est dit, putain, mais c'est le coup de blues, en fait. Après un marathon, qu'est-ce qui se passe? Je dis, est-ce que t'as déjà vécu ça? Parce que bon, il en a pratiqué plus que moi. Mais je ressens déjà un peu le coup de blues et je me dis, putain, il y a quoi après ce marathon? Donc, bah, il y aura la saison cross. Bon, c'est moins glorieux que le marathon, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Saison cross et puis le 10 km des quais à Bordeaux pour ma part.
Il y a aussi Paris 2024, Johan, maintenant que t'es revenu au premier plan. Est-ce que tu y penses à Paris 2024?
Ouais, pour pas vous cacher, c'est un chrono qui me replace dans l'échiquier national et qui, à mon avis, sera pas loin des minima demandés par la fédération dans quelques années, d'ici 2 ans. Faudra voir avec l'évolution des chronos, mais non, j'y pense, et ça c'est vraiment sur le long terme. Mais c'est vrai que après le 2021, quand on a commencé à construire l'idée de repartir sur 2024, l'idée c'était de refaire un marathon pour repasser un marathon. Donc j'ai fait Milan, voilà, comme ça, à 90%, je fais 2:12. Aujourd'hui, c'est une étape supplémentaire, c'est de valider mon retour au plus haut niveau et faire un chrono de référence de 9:20. Et maintenant, peut-être qu'il faudra aller chercher un chrono plus rapide sur un parcours plus rapide type Valence, Londres ou Berlin pour aller descendre en dessous des 2-9 et faire les minima pour les JO. Donc c'est voilà, je me suis replacé dans l'échiquier national et c'était vraiment ça l'idée quoi.
Bon bah félicitations à tous les deux et j'en profite pour féliciter la personne qui a gagné le plan d'entraînement sur Twitch. Bravo à Magic Synthé, c'est toi qui remportes ce lot. Restez avec nous, il y aura encore d'autres lots à gagner. On pouvait pas se quitter sans parler équipement parce que sinon on va nous on nous demande de plus poser la question aux coureurs avec quoi ils courent. Donc je le fais. Tous les deux, vous avez couru avec quelles chaussures et voilà vos feedbacks un peu sur tout ça, comment vous l'avez choisi et le modèle qui un petit peu vos feedbacks sur ça.
Moi j'ai couru avec la même chaussure avec laquelle, enfin pas la même, le même modèle que j'avais couru avec pour le marathon de Milan, à savoir la ASICS Metaspeed Sky. Donc une chaussure avec plaque de carbone et une mousse ultra absorbante pour absorber les chocs et très réactive avec la mousse de carbone. Et c'est une chaussure qui me correspond parfaitement parce que je suis un coureur avec un gabarit assez léger de 60 kg. Donc la mousse me protège vraiment des impacts, même si j'ai une foulée pas trop aérienne, mais elle me protège vraiment surtout sur la fin de course. Et puis le côté dynamisme de la plaque de carbone, c'est vraiment parfait pour moi.
C'est vraiment le grand retour de ASICS. C'est toi Maïva ?
Même chaussure que Johan. Beaucoup de confort dans cette chaussure. J'ai eu très peu de problèmes de pied au moment de la course. Ça a été vraiment top.
Merci infiniment à vous deux. Je vous souhaite une très bonne récupération. Faites attention en descendant les escaliers. Demandez de l'aide à quelqu'un de la production.
On va le faire en arrière.
Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Encore bravo pour ce que vous avez réalisé aujourd'hui.
Merci à vous.
C'est vraiment top. Et puis, bonne.
Et merci pour tous les podcasts que vous avez faits parce qu'ils ont vraiment été utiles, aussi bien pour moi que pour tous les gens, je pense. Mais ça, c'était vraiment chouette d'avoir ça à disposition.
C'est adorable.
Merci beaucoup, Maëva.
À très vite.
Merci à vous, les gars.
Au revoir. À bientôt.
Ciao.
Fred, je te propose maintenant qu'on passe à notre rubrique History. Alors je faisais référence à ta sagesse tout à l'heure, je le dis poliment, mais tu vas nous raconter la folle histoire du marathon de Paris qui, pour le moins, est quand même assez surprenante. Je pense que l'histoire du marathon de Paris, il y a peu de gens qui nous suivent, qui la connaissent, et tu vas nous en dire un peu plus.
Exactement, Guillaume, peu de gens le savent, mais en fait, le marathon de Paris puise ses origines dans l'histoire olympique. Mais avant de te raconter son histoire, très concrètement, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. Tu sais, tu fais souvent référence à mon grand âge, donc il y a des choses dont j'ai été témoin et dont je veux partager l'importance. Et donc, j'aimerais faire un petit retour en arrière avec trois dates clés, si tu m'y autorises.
Alors, avec grand plaisir, si ta mémoire ne fait pas défaut, évidemment.
Écoute, on va voir. La première date, c'est 1894, à l'issue d'un congrès organisé à Paris à l'initiative du baron, le français que tout le monde connaît par son nom, Pierre de Coubertin, le Comité international olympique voit le jour pour redonner vie aux Jeux olympiques antiques. Et symboliquement, la capitale grecque est désignée comme première ville hôte de l'événement olympique. Et ça, du coup, ça m'amène à la deuxième date, qui est deux ans après, 1896, a lieu à Athènes la première édition des Jeux Olympiques dits de l'ère moderne. Et l'événement le plus marquant de cette édition a été la victoire du coureur amateur grec, qui était même berger, pour préciser sa fonction de tous les jours, son métier, et qui se prénomme, tout le monde connaît son nom, Louis Spyridon, et donc qui a gagné l'épreuve du marathon devant ses concurrents, notamment les concurrents français et anglais. Et du coup, ça m'amène à notre troisième date. C'est toujours en juillet 1896, quelques jours après cette édition officielle des Jeux Olympiques, le journaliste Pierre Giffard, qui était une grande plume du Petit Journal, qui était l'un des principaux quotidiens français de cette époque-là, qu'on appelle la Belle Époque, vit, lui, très mal la défaite des meilleurs coureurs français sur marathon face à un simple berger grec, entre guillemets, je le dis, c'est pas moi qui parle évidemment, j'ai énormément de respect pour les bergers, encore plus grecs, je ne veux aucun souci avec la communauté. Mais du coup, voilà, il était très vexé parce qu'il estimait que Spyridon était finalement moins fort, moins bien entraîné, que c'est un concours de circonstances qui lui a permis de performer ce jour-là. Et du coup, pour permettre aux athlètes français de prendre leur revanche, le journaliste a l'idée d'organiser une nouvelle épreuve du marathon parce que, entre guillemets, l'intérêt national est en jeu. Et du coup, annonce le quotidien, et du coup, le premier marathon de Paris voit le jour.
Décidément, les difficultés du marathon français datent pas d'hier. Est-ce que cette course a eu lieu et comment ça s'est passé ?
Eh bien oui, Guillaume, en fait, le 19 juillet 1896, donc on voit qu'on n'a pas perdu de temps, hein, évidemment, à 5h du matin, près de 200 coureurs prennent le départ du tout premier marathon de Paris en direction de Conflans-Sainte-Honorine, qui est une commune de la région parisienne qui est à environ 40 km de Paris. Alors le départ, il n'est pas donné sur les Champs-Élysées comme actuellement, mais porte-maillot. Et il faut savoir que vraiment, les Parisiens sont venus en nombre ce jour-là assister au premier marathon sur le sol français. Malheureusement, pour on va dire l'idée originelle d'organisation de ce marathon, et ben c'est un Britannique du nom de Len Hurst qui va s'imposer après 2h31 de course, sous les acclamations quand même de 2000 spectateurs, ce qui n'est pas rien. Le premier Français, Bagré, termine 6 minutes après lui. Et malheureusement, hein, ce marathon de Paris de 1896 ne sera pas réitéré, et ce n'est qu'en 1976, après New York en 70 et Berlin en 74, que la capitale française renouvellera l'expérience d'organisation d'un marathon, et là de manière durable ce coup-ci.
C'est une histoire assez incroyable, et moi je ne le savais pas, mais le marathon de Paris, c'est historiquement le tout premier marathon populaire au monde où des simples citoyens, des simples coureurs amateurs ont pu s'inscrire quelques jours après le marathon olympique d'Athènes. Donc voilà, c'est pas pour rien si aujourd'hui le marathon de Paris, ça reste un marathon qui met l'accent sur la popularité. Mais du coup, tu nous as expliqué que le marathon, cette expérience n'a pas été réitérée. Comment c'est revenu le marathon de Paris et en quelle année ?
Alors en fait, pour être très concret et très précis, le 18 septembre 1976, le Marathon de Paris renaît de ses cendres à l'initiative d'un groupe de passionnés de course à pied. Alors l'épreuve aura non pas lieu dans les rues de Paris telles que nous la connaissons aujourd'hui, mais se fera sur plusieurs boucles, un peu à l'instar d'une corrida, mais une corrida de 42 195 km, dans le bois de Boulogne. Et pour sa première édition de l'ère moderne et de manière pérenne, c'est-à-dire l'édition de 1976, il y avait 126 coureurs, uniquement des hommes, qui ont pris le départ depuis le stade Jean Moin, qui est non loin de la porte de Saint-Cloud. Donc on reste basé sur l'idée que le Marathon de Paris a son ancrage autour du bois de Boulogne. Cette première édition est gagnée par un certain Jean-Pierre Eudier, qui est licencié. Alors ça me fait un peu mal au cœur à moi de le dire, parce que je suis du Stade français. Mais voilà, Jean-Pierre Eudier était licencié au Racing Club de France, qui était notre grand rival lorsque ce club existait encore en tant que club d'athlétisme. Et il le remporte avec un temps de 2h20 minutes et 57 secondes, ce qui est un excellent temps, on va dire pour l'époque. Rien de désobligeant dans ce que je dis, mais les méthodologies d'entraînement n'étaient pas les mêmes, on n'avait pas affaire à des athlètes professionnels, donc c'est quand même un chrono assez colossal, surtout avec l'équipement, hein. On parlait des chaussures, surtout avec l'équipement qu'ils avaient. Chapeau bas, monsieur Eudier. Et il faut noter que le dernier de la course termine l'épreuve en un peu plus de 3h20 quand même, ce qui donne une idée de la densité des coureurs qui étaient présents sur cette première édition du Marathon de Paris.
C'est vrai que 3h20, c'est assez incroyable, et aujourd'hui le marathon il s'est beaucoup démocratisé, donc aujourd'hui c'est largement au-dessous, hein, le temps médian. Quand est-ce que le parcours il est sorti du bois de Boulogne, parce que si j'ai bien compris, ça se courait déjà au bois de Boulogne, hein. On sortait pas on était resté en forêt, quoi, en fait, un peu à l'abri des voitures et tout ça.
Alors effectivement, hein, on l'a vu, la toute première édition, pour permettre aux athlètes français de se venger de l'affront du berger grec, avait été fait en partant du bois de Boulogne pour aller à Conflans-Sainte-Honorine. La première édition de 1976 était en boucle dans le bois de Boulogne. Et en fait, avec l'enthousiasme, l'engouement grandissant autour du marathon, la mairie de Paris décide 3 ans plus tard, donc en 1979, de donner l'accès libre à ces rues et faire du Marathon de Paris, on va l'assumer, hein, le plus beau marathon du monde, parce qu'on est dans la plus belle ville du monde, il faut le dire, tout le monde le dit, il n'y a pas que nous qui le disons, donc assumons-le et vivons-le pleinement. Et voilà, c'est comme ça qu'en 1979, le Marathon de Paris a vraiment été un marathon dans les rues parisiennes. Et pour sa 10e édition, le Marathon de Paris parvient même à franchir la barre des 10 000 participants, ce qui à l'époque est un exploit, parce que le marathon reste encore quelque peu, entre guillemets, confidentiel, loin de l'engouement, on est très loin de l'engouement actuel. Et en fait, depuis 1998, le Marathon de Paris est organisé par le groupe Amaury Sport Organisation, qu'on connaît plus communément sous l'acronyme ASO. Et aujourd'hui, avec ses 55 000 concurrents lors des dernières éditions et en conditions normales, c'est un des trois plus grands marathons du monde avec New York et Chicago. Excusez du peu, donc voilà.
Merci beaucoup Fred pour cette petite rubrique d'histoire. Il y a Sally Framberry qui nous dit sur Twitch que t'es un peu le Stéphane Bern du marathon et je pense que ça te va très bien. Laetitia, Fred, je vous propose d'accueillir Clément. Alors là, je pense qu'on peut l'applaudir parce qu'il vient, mais alors tout juste de finir. Il est encore essoufflé, le pauvre, il boite. Il vient tout juste de finir le Schneider Electric Marathon de Paris. Alors, je crois qu'il y a eu, c'est aussi ça, tu sais, le marathon. Des fois, il y a des surprises, il y a de l'imprévu. Je ne sais pas si tout s'est passé comme tu avais prévu. Voilà, mais tu vas nous raconter ton ça. Salut Clément, comment ça va?
Ça va mieux là.
Alors Clément, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Je crois que c'est un tout début de relation avec la course à pied parce que ça fait très très peu de temps que tu t'es mis à courir. Comment est-ce que tu as eu cette envie de courir et pourquoi tu t'es lancé sur marathon? J'ai juste demandé de bien parler devant le micro parce que il y a beaucoup de monde encore qui arrive et je sais que tu es un peu essoufflé. Alors le plus simple c'est que tu parles devant. Alors comment d'où est venue cette idée un peu saugrenue?
Alors en fait, c'est vrai que la course à pied, j'en faisais un petit peu parce que je viens d'un sport j'ai fait du rugby pas mal d'années, donc l'été j'avais tendance à faire un tout petit peu de course à pied pour déculpabiliser. Et du coup, c'est vrai que les confinements ont été des périodes très compliquées dans ma vie. Bon, je vais pas rentrer non plus dans les détails intimes, mais globalement. Des séparations, des complications, un stress aussi professionnel comme pour beaucoup de monde. Et j'ai eu envie de mettre un challenge pour sortir d'une impasse dans laquelle j'étais un petit peu rentré, malgré moi. Et j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance de travailler beaucoup avec ASICS de par mon activité professionnelle. Et du coup, j'ai proposé à la marque que l'on crée une web-série où on allait dans le but de montrer les bienfaits de la course à pied, la capacité qu'on a tous en nous finalement de se mettre des objectifs et de les accomplir, même quand on part de très très loin. Je suis content et soulagé aujourd'hui d'avoir été au bout de cela et de pas avoir aussi fait faux pas et faux bond à la marque, mais aussi d'avoir vécu cette aventure qui a été... c'est la vérité en fait, ça a été un changement dans ma vie quoi, véritablement, et ce sentiment de victoire que je viens de ressentir aujourd'hui, je pense que là j'ai pas encore complètement assimilé tout ça, mais en tout cas à chaud c'est un bonheur extraordinaire quoi, que je recommande à tout le monde de vivre quoi.
Mais moi je dis souvent, en 2019 il y a eu 55 000 finishers et je dis souvent qu'il y a 55 000 histoires derrière le marathon. Fred nous parlait tout à l'heure d'Alexandre, quelqu'un qui a atteint mucoviscidose, qui a une double greffe des poumons et qui va se lancer sur marathon. Et c'est vrai que il y a un symbole, le marathon ça dépasse la course à pied. Quelquefois on entend sur les réseaux sociaux des gens qui sont assez médisants sur les chronos parce qu'ils comprennent pas que pas tout le monde est forcément à la recherche d'une performance sportive. On peut aussi chercher à prendre une revanche sur la vie, il y a aussi une dimension symbolique et je pense qu'il faut respecter ça. Aller se moquer de quelqu'un qui a fait son marathon en 6 heures par exemple alors qu'il était double greffé, parce que les gens ne sont peut-être pas au courant des histoires qu'il y a derrière, donc on fait attention sur les réseaux sociaux parce qu'on ne connaît pas la vie des gens et des fois on peut dire des choses qui sont un peu dures. On avait eu aussi Stéphane Plaza et Emmanuel Vidal dans le marathon à New York, et des fois on peut dire des choses un peu méchantes. Moi je voulais vraiment insister sur ça pour que les gens comprennent que le marathon ça dépasse la course à pied, c'est des histoires humaines derrière et qu'on peut, voilà, il y a plein de choses. Du coup, ça changeait quoi concrètement cette découverte de la course à pied? Tu nous as dit que tu voulais un peu remonter la pente. C'était dur pour toi d'un point de vue perso. Tu as voulu remonter la pente et tu t'es servi de cet objectif-là pour peut-être retrouver une hygiène de vie. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la découverte du running?
Ça a changé mon rapport avec moi-même, avec l'estime de moi-même déjà. C'est clair que pour rebondir sur ce que tu as dit, déjà je suis à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Je pense que malheureusement parfois il y a un microcosme de personnes qui ont tendance à être un petit peu négatives ou dans le jugement sur les chronos, etc. Mais finalement c'est un manque, je pense, de curiosité qu'ils ont par rapport aux histoires des autres personnes, et c'est aussi pour flatter eux-mêmes leur propre ego et se rassurer en grande partie. Donc finalement je pense qu'il faut pas leur donner d'importance et la vie se chargera de leur remettre les pieds sur terre. Ce que je disais, ouais, ce que ça a changé, c'est vraiment l'estime de moi-même. Je pense que le marathon, alors on dit souvent que le marathon c'est une métaphore de la vie, et et j'en suis, enfin, je dis pas que j'en suis l'exemple aujourd'hui, je suis pas aussi prétentieux, mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vrai que les sentiments qui se sont mêlés lors de ces 42 kilomètres ont été forts, parce qu'il y a eu au début très très bien, et puis à partir du 15e, j'ai senti une douleur que j'avais jamais sentie, et puis tout le process finalement aussi permet de se rencontrer, je dirais presque. Finalement, la prépa d'un marathon, c'est aussi se rencontrer en tant que personne, et ça crée un cercle vertueux qui, je pense, peut emmener tout à chacun beaucoup plus loin de ce qu'il pense être capable de réaliser. Et ça, c'est un sentiment qui est... Ça élimine les pensées limitantes, ça crée la résilience. Et finalement, dans la vie, je pense que c'est ces deux choses dont on a besoin d'avoir toujours avec soi.
Alors, moi, je te remercie déjà, Clément, pour ce témoignage, parce que je pense que tu exprimes parfaitement cette fameuse phrase, cette fameuse citation d'Émile Zatopek qui dit « Si tu veux courir, tu cours un kilomètre. Si tu veux changer ta vie, tu cours un marathon. » Vraiment, donc concrètement, tu l'exprimes très bien. Et je t'en remercie. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Mais là, je veux parler très concret dans l'entraînement pour te préparer au marathon. Et Laetitia aussi, tu répondras. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans cette prépa finalement? C'est sa durée, c'est les sorties longues, c'est certains types de séances. C'était quoi finalement qui vous a semblé le plus difficile, mais qui au final peut-être vous a permis ce matin, lorsque vous étiez sur la ligne d'arrivée, de vous dire j'ai fait ça, donc je vais y arriver.
Laetitia, je te laisse répondre en premier.
Pour ma part, ce que j'ai trouvé le plus dur, c'est vraiment le temps que ça prend, en effet, sur la vie quotidienne, quoi. En fait, c'est vrai que les sorties de 2 heures, 2 heures et demie, les entraînements qui durent aussi autant de temps, voilà, ça prend en effet, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en effet, du temps sur le temps familial. Donc c'est ce que j'ai trouvé le plus compliqué, en effet, à gérer dans cette préparation. Mais bon, c'est que du bonheur après, donc ça vaut le coup.
Et toi, Clément ?
Moi, non, pas trop le temps, parce que en plus, j'ai la chance de travailler dans le milieu du running. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est lié un petit peu à mon travail aussi. Donc le temps, ça n'a pas été trop compliqué. Je pense que le plus dur, ça a été de s'y mettre. je suis un maître procrastinateur depuis des années. Je pense que mes amis qui étaient là sur la ligne d'arrivée, c'est un beau symbole, parce qu'ils savent très bien que je suis complètement le type de personnalité à commencer quelque chose et pas aller au bout. Donc je pense que le plus dur, ça a été de s'y mettre et de créer la discipline finalement. Et puis la deuxième chose qui a été aussi très compliquée, c'est que j'ai eu beaucoup de blessures dans ma vie avec le rugby, les ligaments croisés, j'ai dû avoir une dizaine d'entorses à la cheville. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a été très longtemps avec mon coach sur une ligne de crête finalement sur les 2 derniers mois où il fallait gérer pour pas finir complètement blessé, quoi, et de pouvoir vraiment terminer. Donc je dirais que ça a été ces deux choses-là.
Et voilà, j'espère que ce petit best-of vous a plu et vous a permis de vous replonger dans l'ambiance du Schneider Electric Marathon de Paris. On vous donne rendez-vous maintenant le 3 avril 2022 pour participer à la prochaine édition du Schneider Electric Marathon de Paris. Évidemment, on sera là avec le podcast Objectif Marathon pour vous aider, vous accompagner tout au long de votre préparation. Passez de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Cette émission vous a été proposée par Schneider Electric, qui permet à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en assurant le progrès et le développement durable pour tous. Schneider Electric est fier d'être le partenaire du marathon le plus responsable au monde, alors vous aussi, rejoignez le programme des Green Runners, à vous de jouer.